Dans quel temps est-ce que vous vivez? Je parle pas du temps qu'il fait ou de l'histoire qui est en train de se jouer, bien que tout soit lié. Je parle surtout de grammaire ici. Dans quel temps est-ce que l'on vit sinon dans un présent qu'on pourrait dire infernal? Un temps de l'immédiateté, de l'actualité sans cesse renouvelée, de l'urgence aussi. Un temps qui ne prend pas son temps, c'est rien de le dire. Un temps où le dialogue, vous savez, se fait du tac au tac. Le jugement, vous avez remarqué, à l'emporte-pièce, la parole de plus en plus brutale. Qu'on écoute la radio, qu'on regarde la télévision, qu'on se promène sur un forum ou sur un réseau social, mais aussi dans n'importe quel échange amical, amoureux, familial, professionnel, social, c'est un présent infernal, en boucle, à l'infini, au risque du progrès, à mon avis, parce que l'apprentissage, la réflexion, l'avancée, tout cela exige du temps, de même que le débat, quel qu'il soit, ne peut s'imaginer lui aussi sans prendre le temps comme allié. Autrement dit, la réduction du temps de parole, du nombre de mots ou même de signes pour s'exprimer, c'est la réduction de la pensée. Et si l'injure a remplacé le dialogue, si chacun se terre dans un point de vue aujourd'hui, si l'incommunication éclate au grand jour, souvent, c'est faute d'arguments, mais c'est surtout, à mon avis, faute de temps. Voilà une question qu'il s'agit de se poser. Dans quel temps est-ce que vous vivez?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Et si on prenait un peu le temps avec mon invité d'aujourd'hui, philosophe, psychanalyste et professeur, elle nous invite notamment à réfléchir à la manière dont s'articule et dialogue l'individuel et le collectif dans nos sociétés. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci à
d'être
vous.
Là ce matin. Tout d'abord, dans quel temps est-ce que vous avez le sentiment que l'on vit? Vous
avez raison, le texte qui vient avec lequel vous venez d'ouvrir est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de disparition du temps, on liquifie littéralement le temps, alors que le temps il est nécessaire pour tout simplement avoir le sentiment de vivre, simplement ça.
Un temps conditionné par l'immédiateté qui nous invite à être en réaction perpétuelle, c'est ce que vous écrivez. Qu'est-ce qui vous évoque ce mot réaction?
C'est précisément le contraire de l'action. C'est-à-dire que normalement, l'action, c'est quelque chose qui est lié à une pensée, qui est lié au temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'action, je me suis dit que, éventuellement, je pourrais faire autre chose.
Oui.
Et j'ai fait ça. Et donc, à partir du moment où l'action n'a plus la trace de cette décision, on est précisément dans la réaction.
Si nous sommes entrés dans une époque dominée par la réaction, serait-il abusif que de qualifier notre époque de réactionnaire, Cynthia Fleury?
Ah, c'est dur, mais... Je crois que c'est très compliqué de dire que l'époque est un tout, si vous voulez. L'époque, elle est, c'est pour ça que moi j'ai travaillé très longtemps sur les schèmes de la Renaissance et j'ai toujours considéré que les schèmes de la Renaissance nous disaient plus facilement ce qu'était la mondialisation d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très ambivalent, d'éventuellement de contradictoire, si on veut être gentil, de paradoxal. Et donc, oui, il y a des gros blocs comme ça, réactionnaires, mais il y a des endroits extraordinairement poétiques, extraordinairement, comment dire, régénérescents. Donc, non,
mais
pas
quel
que
impact cette conception du temps a-t-elle sur la qualité du débat public dont vous déplorez la détérioration, Cynthia Fleury?
Vous l'avez dit encore une fois, c'est-à-dire que, si vous voulez, à partir d'un moment où on a un réductionnisme de tout, réductionnisme des signes, réductionnisme des espaces où on peut s'exprimer, instantanéité, décontextualisation, c'est-à-dire que parler, c'est aussi parler dans un milieu particulier. C'est pas tout d'un coup dire « Ah, j'ai attrapé ça et je sais pas du tout de quoi on parle et tiens, je vais me donner l'occasion de réagir quand même. » Donc tout ça fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus tout simplement comprendre ce qui est dit. Donc le temps, c'est absolument nécessaire pour comprendre. L'espace et le temps, c'est nécessaire pour comprendre. Et nous avons des outils, des nouveaux outils magnifiques. Moi, je suis une très grande technophile.
Ah, vous êtes une tweeteuse?
Oui, je, vraiment. Donc, c'est pas du tout... Si vous voulez, l'enjeu, c'est pas de dire ça, c'est terrible, etc. C'est simplement de comprendre que ça modifie nos perceptions. Et ça modifie nos manières d'être. Et que, régulièrement, il est important de trouver une manière de reprendre la main.
Cette détérioration du débat public, est-ce qu'elle est dangereuse pour
l'équilibre
de nos
démocraties? Oui, elle est dangereuse. Oui, elle est absolument dangereuse pour une simple raison. C'est que le premier outil de régulation dans un état de droit, c'est la parole. Et aujourd'hui, on a... Je vais faire une paraphrase d'un texte de Walter Benjamin qui disait, c'était dans Pauvreté et expérience, il disait le cours, c'était au sortir de la Première Guerre mondiale, il disait le cours de l'expérience a chuté. Je dirais que le cours de la parole donnée a chuté. C'est-à-dire que non seulement, si vous voulez, la parole, ça veut quasiment plus rien dire. Mais en plus, quand on vous la donne, vraiment, ne la prenez pas, parce qu'on ne vous donne plus rien. Donc, c'est fondamentalement, on a aujourd'hui perdu cette idée que premier outil de régulation de la violence, premier outil de performatif, c'est la parole. Donc, si vous désubstantialisez sans cesse la parole par de la novlangue, par du réductionnisme, par de l'insulte à la place d'un argument, etc., ben, vous videz la démocratie de sa force.
La parole est d'intérêt général, diriez-vous ?
La parole est d'intérêt général. C'est d'abord, elle est d'intérêt intime, oui. C'est-à-dire que à ce jour, en tout cas, Homo sapiens, c'est Homo loquens, c'est-à-dire que c'est comme ça. Je suis psychanalyste pour ça aussi, sans doute, par la verbalisation. Et ce qui m'a fait comprendre aussi ça, c'est que le chemin de cette parole, il est à la fois constitutif de la santé psychique et il est constitutif de la santé démocratique. Je ne veux pas dire que tout se ressemble et que tout est analogique, mais il y a un chemin par la verbalisation et par le langage qui est aussi important pour la question collective que pour la question individuelle.
En début de semaine, Cynthia Fleury, nous avons reçu l'historienne et philosophe Mona Ozouf. On a beaucoup parlé de crise, crise du sentiment national, crise de l'imagination. Dans quelle mesure est-ce qu'on assiste aussi à une crise du collectif, à une crise de l'intérêt général, tiens, puisque j'utilisais ce terme ?
Parce que, si vous voulez, alors, c'est immense cette question. La crise.
Une question océanique, Cynthia.
Voilà, ça ne m'étonne pas que Mona, elle s'est dit, voilà, je peux régler cette question. J'adore vraiment Mona Ozouf, je la salue vraiment avec une très grande estime. Mais sur la question de l'intérêt général, est-ce que je ne sais pas ça aussi sincèrement. Je ne sais pas encore répondre à cette question. Je sais juste que nous avons une vision de cette unité du monde commun qui a disparu très certainement. Mais ça ne veut pas dire que la notion des mondes communs, voilà, il y a une autre manière de faire récit. Et c'est pour ça que moi je m'intéresse toujours davantage, si vous voulez, à l'amont. C'est-à-dire, en gros, comment on construit l'intérêt général plutôt que tiens. Quel est le récit qu'on va mettre pour tout le monde de l'intérêt général et qui est d'une certaine manière qui est ça nous étouffe quoi. Et on voit très bien aujourd'hui que il y a une très très grande part d'individualisme. Moi, je préfère parler d'individuation et que donc oui, il faut à la fois manier cette diversité immense, ces manières de faire, ces styles de vie, ces singularités, et en même temps, il faut arriver à attraper l'intérêt général.
Alors effectivement, dans Les Irremplaçables, vous faites cette distinction qui est passionnante entre l'individu individué et l'individu individualiste, et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous reveniez sur cette distinction qui est assez éclairante pour peu qu'on l'éclaire.
Oui, non mais très rapidement, l'individualisme, c'est une passion pour soi-même, c'est un travestissement de l'individuation. L'individuation, c'est tout simplement savoir qu'on est manquant. Voilà, à partir de ce moment-là, tout est dit. Si on est conscient qu'on est manquant, je dirais, tout va bien. Sauf que c'est très dur pour le sujet.
Alors, ça veut dire qu'il faut réinventer un individu dont le destin individuel vienne alimenter un destin collectif. Comment on fait pour changer notre rapport au monde ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Il s'agit, si vous voulez, dès le début, d'abord de se dire qu'on a quelque chose à faire avec le monde, je pense, et pas que avec soi. Et que, précisément, se dire, tiens, est-ce que je peux essayer de transformer le monde ? Non seulement ça va transformer le monde, oui, je le dis, ça va transformer le monde, et en même temps, ça va bien évidemment venir me transformer moi-même. Et c'est cette dialectique, si vous voulez, qui crée l'individuation. Alors que si on se dit, je n'ai pas à transformer le monde, en fait, on dépérit intérieurement, c'est comme ça, on déprime, parce que l'humain transforme les choses. C'est comme ça. Il se constitue par la transformation du monde. Ça porte un nom, la sublimation aussi, l'œuvre. Et la sublimation, ça a besoin de temps, précisément, pour revenir à votre question du départ. Et donc, si vous voulez, ce temps, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait le premier mouvement par rapport au temps. Il est douloureux. Il est, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est irréversible, comme dirait Jean Kelevitch. Et en gros, c'est la mort. Et puis, on découvre à un moment donné, au fil du temps, précisément que le temps peut être un allié. Pour rebondir encore sur le dernier mot, un allié au sens où, tiens, je vais comprendre que grâce à ce temps, je peux sublimer les choses et je peux créer un peu d'éternité et surtout, je peux agir et je peux transformer le monde.
Passionnant, au regard des débats qui nous animent en ce moment, il y a un peu moins de 2 ans, vous aviez dirigé avec Anne-Caroline Prévost la publication d'un livre qui s'appelait Le souci de la nature, où vous parliez, Cynthia Fleury, de l'enjeu de la protection de la biodiversité et de l'environnement. Et voilà ce que vous écriviez, si le risque environnemental est jugé trop important par rapport à nos capacités, il est très probable que nous n'essayons même pas d'adopter un comportement adapté, mais qu'au contraire, nous réagissions de façon émotive jusqu'à un déni du risque. Ça veut dire qu'on va droit dans le mur.
Ça veut dire, si vous voulez, qu'on a une capacité, je dirais, l'être humain, à être extraordinairement créatif dans le déni. Oui, ça je dois dire, je suis toujours étonnée par la puissance de l'homme à trouver toutes les astuces possibles pour surtout ne pas voir.
Et alors, qu'est-ce qui vous rend optimiste ?
Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il en suffit d'un seul. Il en suffit d'un seul pour sauver le reste des hommes. Et donc, qu'à partir... Et puis, je ne sais pas si je suis optimiste. Je sais en revanche que, je suis très spinoziste. Donc, je considère que les passions tristes ne sont pas régulatrices de l'éthique collective. Et donc, je fais attention et je me tiens toujours à distance de ma propre mélancolie.
Mais de quel œil est-ce que vous regardez, par exemple, l'action gouvernementale en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique ?
Je dirais qu'elle est dans une problématique où elle croit encore que le seul usage communicationnel de la langue suffit. Et c'est bien de ça dont il s'agit. La dégradation du débat public, c'est aussi ça. C'est à un moment donné de scinder le langage de sa performativité. Et donc, quand vous dites quelque chose, vous faites quelque chose. Et aujourd'hui, on dit quelque chose pour ne pas faire quelque chose. Et ça, c'est terrible. Donc, il y a un manque à la fois de courage, mais il n'y a pas qu'un manque de courage, il y a un manque de compréhension de ce qu'est le langage dans l'état de droit. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Mais c'est pas grave. J'étais hier à l'hôtel de ville, d'ailleurs avec la maire Anne Hidalgo, avec Nouvian, Claire, etc. Puis avec quantité d'autres du monde entier, 50 pays qui étaient là, pour dire quoi ? Pour dire, ça y est, nous sommes en marche. Vous ne voulez pas voir. Nous, les plus jeunes, parce que c'est vrai que c'est aussi une affaire générationnelle, oui. Nous y allons et nous n'attendons pas d'être mandatés par vous et c'est nous qui allons vous mandater. Donc il y a un phénomène quand même de société civile là qui se joue, qui est tout à fait intéressant.
Celle qui dit pour ne rien faire dans cette émission, Cynthia, qui est très vieille, à notre grand désespoir, c'est la culture et son actualité déboussolée, indésirable, non désirante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 29 mars ? Polar et la manière, la 15e édition du festival Quai du Polar s'installe aujourd'hui à Lyon. Au programme de ce rendez-vous international incontournable, 3 jours de salon, 150 auteurs en dédicace et 90 000 visiteurs attendus. Et puis des stars du roman noir. On attend le cinéaste et écrivain américain Brian De Palma, le journaliste et romancier italien Roberto Saviano qui sera lundi notre invité dans Boomerang, ou encore Michael Connelly, le pape du thriller judiciaire californien. On est bien.
Human beings are all afraid of the same basic things. But you make a great horror film and you've really done so.
Ça roule pour John Carpenter, maître du fantastique. Le réalisateur américain recevra le Carrosse d'Or 2019 lors du Festival de Cannes, succédant ainsi à Martin Scorsese. Décerné par la Société française des réalisateurs de films, le Carrosse d'Or récompense chaque année un réalisateur pour ses qualités novatrices, son audace, son intransigeance aussi dans la mise en scène. À la charnière du genre et du classique, Carpenter, en 40 ans de carrière, a signé des films d'horreur et de science-fiction totalement cultes comme Halloween, The Thing ou New York 1997.
Du voyage, de l'étranger, de l'exil, ce sont des thématiques qu'on retrouvera dans grand nombre de spectacles.
Avignon, on y joue tous en rond. Olivier Py a révélé hier la programmation in du Festival d'Avignon de cet été, au programme 43 spectacles, avec comme thème dominant l'Europe, la dissidence et les Odyssées. C'est Pascal Rambert qui investira la cour d'honneur du Palais des Papes avec Architecture, une pièce sur l'Europe du XXe siècle, portée notamment par Jacques Weber. Blandine Savetier proposera quant à elle une relecture plutôt de l'Odyssée d'Homère en feuilleton quotidien, tandis que Kirill Serebrennikov, assigné à résidence en Russie, montera à distance Outside sur le photographe chinois transgressif Renhang. Allez.
Il y a Alceste, c'est le meilleur copain de Nicolas, celui qui est de tous les coups. Alceste est un gros, qui mange tout le temps. Et quand on lui serre la main, elle est toujours collante, la main, parce qu'il y a toujours de la confiture dedans.
Toujours petit, mais plutôt jeune, le petit Nicolas, écolier naïf et rieur, créé par Sempé et Goscinny, célèbre aujourd'hui ses 60 printemps. Il a vu le jour le 29 mars 1959 dans le numéro de Pâques de Sud-Ouest Dimanche. 222 histoires publiées et 15 millions d'exemplaires vendus plus tard. Le héros à cartable s'offre un anniversaire d'enfer avec un week-end d'expo proposé par la Fondation Vuitton, une édition collector à reliure rouge et or aux éditions IMAV, et puis les CD audio de ses aventures lus par Benoît Poulvord. C'est très très chic ça. Et ce matin, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, invitée de Boomerang, pour prendre un peu de temps, on le disait, et j'aimerais ensemble qu'on parle de nature, Cynthia. La nature qui était au cœur de l'un de vos derniers ouvrages collectifs, on a déjà cité, cette nature dont vous nous rappelez qu'elle est au cœur de notre contrat social. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie, si vous voulez, que nous avons pensé, et à juste titre, toujours le contrat social de façon abstraite. Et je le dis souvent, mais l'état de droit, la création de l'état de droit, c'est quelque chose de performatif et de déclaratif. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, il n'y a rien, et on dit, il y aura un état de droit, et il y a un état de droit. Et tout le monde regarde autour de soi et dit, non, il n'y a pas d'état de droit. Mais ça, ce moment, si vous voulez, de la décision, ça fait partie, et de la volonté, ça fait partie de ce qu'est un état de droit. Sauf que, bien évidemment, la vérité de l'état de droit, c'est ce qui va arriver après, c'est-à-dire l'état social, et notamment aujourd'hui l'état social-écologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on a des quantités d'états de l'art aujourd'hui qui montrent que, bien évidemment, à partir du moment où il y a une vulnérabilité environnementale, il y a une vulnérabilité socio-économique, voilà. Et que donc la justice environnementale et la justice sociale, ce sont bien évidemment indissociables. Donc le premier grand, le premier grand enjeu de la citoyenneté, c'est l'accès aux ressources naturelles. Et puis, dans un second temps, on sait aujourd'hui la part considérable des facteurs environnementaux dans la santé. Le premier grand test de crédibilité aussi de la citoyenneté, c'est quand même de pas tomber malade. Mmh. Donc, si vous voulez, tous les jours, là, on est en train, je voyais encore les chiffres de l'association Respire, qui montrent que, voilà, nous respirons tous les jours quelque chose qui nous met en danger. Et donc, cette nature est au fondement du contrat social.
Il y a des conséquences sur nos sociétés, sur les relations entre les individus. Ça veut dire moins de solidarité, moins d'humanisme. C'est un mot qui revient souvent chez vous.
Alors, c'est parce qu'encore une fois, ce que j'essaye, moi je suis un grand défenseur de ce qu'on appelle l'exceptionnalité de l'homme. C'est-à-dire, je ne m'inscris absolument pas dans le fait que, je ne suis pas dans le biocentrisme.
D'accord.
C'est important de le dire, puisque nous avons des grands penseurs qui sont dans le biocentrisme, et même certains qui sont dans l'écocentrisme. Alors, je suis un petit peu plus dans l'écocentrisme, c'est-à-dire j'essaye précisément de créer une relation harmonieuse entre l'homme et la nature, mais si je dois être honnête, je reste un vrai philosophe, c'est-à-dire en gros un anthropocentrisme, mais éclairé. Et donc, l'exceptionnalité de l'homme, j'essaye de la mettre du côté de la responsabilité. Et là, si j'ose dire, c'est la conscience que l'homme fait partie du vivant, tout simplement, que demain, en dérégulant les biosystèmes, etc., c'est pas tellement la nature qu'on met en danger. C'est l'humanisme de l'homme.
Mais qu'est-ce qui pousse, Cynthia Fleury, l'humain à créer les conditions de sa propre déshumanisation?
Ah ben ça, c'est le conflit psychique qui est à l'intérieur de nous, si on tombe sur la psychanalyse.
Diriez-vous qu'on est amoureux de la catastrophe?
Je sais pas, on est amoureux de, je sais pas si on est amoureux de la catastrophe. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que c'est difficile de changer, c'est difficile de se transformer, c'est difficile d'affronter le principe de réalité. Et que parfois, pour ne pas affronter le principe de réalité, on bascule dans ce qui se présente d'abord comme un plaisir et qui, en fait, signe notre catastrophe. Pourquoi? Parce que on pense que la catastrophe, c'est la frustration. Et en fait, la frustration, le renoncement, c'est la base, très souvent, de la liberté.
Et vous dites bien, Cynthia Fleury, que le système social et de solidarité dans lequel nous vivons en Europe, il est né d'une catastrophe, de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui mis en péril. Ma question est donc la suivante. Faudra-t-il aller jusqu'à la catastrophe pour nos sociétés, pour qu'elles parviennent à se réinventer?
Vous avez beaucoup de penseurs qui instrumentalisent la pensée de la catastrophe, voilà. De façon positive. Ça va de Jonas à des penseurs plus actuels aujourd'hui. Mais j'espère que non, mais c'est vrai que pour l'instant, si je devais fondamentalement donner un exemple historique d'immense régulation par la non-catastrophe, je serais un peu légère.
Dans quelle mesure l'amnésie, la capacité à oublier, pourrait-elle être considérée comme une donnée propre à l'être humain?
Alors, ça, c'est un thème qu'on avait repris, justement, avec Anne-Caroline Prévost, qui est un terme de l'amnésie environnementale qu'on trouve chez Peter Kahn, qui est un auteur peu travaillé en France, et qui dit tout simplement que, que nous croyons que le juste niveau de dégradation, entre guillemets, de la nature, c'est celui avec lequel on est né, donc on est mal barré, si j'ose dire, puisque à chaque fois le truc devient à chaque fois pire, et on se dit, oh, c'est pas bien grave, mais non, si, c'est très très grave, parce qu'il y a des générations qui sont avant nous et qui avaient un rapport à la nature bien plus vaste que celui-là. Et puis c'est la question de l'expérience de nature. C'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui de poser une expérience directe, encore une fois, de la nature. On a des expériences indirectes, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec la nature, on décide d'aller en forêt et on va en forêt. Mais c'est pas ça, normalement. L'expérience de la nature, c'est l'expérience comme milieu premier, si vous voulez. C'est-à-dire, je vais à l'école et il s'avère que je traverse un chemin et qu'en fait je ne me dissocie pas de la nature. Et ça, cette expérience de connexion primaire, émotionnelle, contemplative, récréative, nous la perdons. Alors, nous la perdons, mais voilà, tout l'enjeu, c'est, alors heureusement, hein, les smart cities, etc., elles sont très très smart, elles se veulent également green, hein, elles se veulent également très, en mettant en place un rendez-vous avec la nature, encore une fois.
Mais pourquoi est-ce qu'on oublie, somme toute ?
D'abord parce que le process de l'oubli est absolument constitutif de l'homme dans le bon sens du terme, parce que pour être au présent, parler du temps, du présent, il y a une forme positive d'oubli, parce que sinon ça s'appelle la rumination, ça s'appelle l'obsession, donc tout ça n'est pas simple. Donc il est important d'oublier également, et en même temps il est important bien évidemment que l'oubli ne soit pas lui-même le lieu d'une répétition. Donc, pour que l'oubli ne soit pas lui-même le lieu d'une répétition, il faut qu'il y ait eu création, il faut qu'il y ait eu apprentissage d'une leçon. Et c'est très très dur, en fait, d'apprendre une leçon. C'est très très compliqué.
Mais qu'on va continuer à apprendre avec vous et à reparler de tout cela juste après un titre que vous avez choisi, en l'occurrence Cynthia Fleury, Lilac Wine, de Nina Simone. Vous êtes sur France Inter avec Cynthia Fleury, donc vous écoutez Boomerang. On est vendredi.
I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do, I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel steady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that he coming to me?
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors en fait, on est quelque part entre la Joconde, la femme d'État et la tante préférée, c'est avec le bel ovale de son visage, sa façon d'investir physiquement chaque mot, son regard intense, mobile, généreux, sa brune chevelure électrisée par la passion, par la curiosité, avec sa petite casquette bleue. Ce matin, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, invitée de Boomerang, et j'aimerais qu'on revienne ensemble un instant sur ce qui vous a poussé justement à vous tourner vers cette dernière profession, la psychanalyse. Comment est-ce que vous êtes devenue psy ? Cynthia Fleury.
Ça, c'est terrible. C'est difficile. Mon premier analyste était un philosophe. Et à l'époque, il m'avait déjà... Bon, je vais le nommer. Il s'appelait Pierre Fédida. Et puis, m'avait invité, si j'ose dire, d'emblée, parce qu'il était professeur à Paris 7, il m'avait invité d'emblée à cumuler, si j'ose dire, parce que c'était tellement simple. Voilà, je faisais une thèse de philo, mais il fallait faire aussi une thèse de psychopathologie avec lui, c'était tellement évident. Et moi, je fais non. Donc, je sais pas, lui, sans doute, avait vu que je deviendrais analyste, mais ça s'est joué beaucoup, beaucoup plus tard, en fait. Après tout un parcours d'analysante, et puis à ce moment-là, pour mille et une raisons, parce que j'étais à la fois sollicité par des collègues qui étaient d'ailleurs plus liés à la psychodynamique du travail. Je travaillais sur les pathologies de la démocratie. Donc tout ça, tout d'un coup, s'est un peu télescopé. Et à ce moment-là, j'ai choisi un dernier analyste pour dire, voilà, est-ce que vous m'accompagnez dans ce saut, si j'ose dire. Et à ce moment-là, j'ai fait ce qu'on appelle les sections cliniques. Je suis retournée, dans une faculté, en l'occurrence pas Paris 7, mais Paris 8, etc., etc. Donc tout ça a fait que, bon, ça s'est joué comme ça.
Puis il y avait aussi, j'ai l'impression, un intérêt pour la parole, pour les mots que l'on prononce toujours. Qu'est-ce que les mots que l'on emploie révèlent de nous et de nos désirs?
Ah, les mots, si vous voulez, encore une fois, c'est la manière la plus propre de l'homme de dire quelque chose de lui à celui qui est en face de lui. Donc,
pour vous, c'est toujours facile de trouver les mots?
Non, c'est bien sûr que non. Et puis parfois, le silence est absolument constitutif de la parole. Donc, je veux dire par là qu'il y a une manière de faire taire la parole et qui dit bien sûr quelque chose, et Dieu sait si en analyse le silence il est constitutif de cette parole.
Quand est-ce qu'il vous manque à vous les mots, Cynthia Fleury? Dans quelles circonstances?
Oh, la peine, sans doute, ça reste quand même un des territoires les plus compliqués, le chagrin, d'abord parce qu'on est fatigué, et puis la lassitude. Hein, c'est toujours les voilà. Y a, c'est vrai qu'à un moment donné, à part dire je suis lasse,
phrase qu'on emploie régulièrement dans Boomerang.
Voilà, non, justement pas. Donc, voilà, les mots, ils manquent. Et puis les mots, ils manquent parfois face à une situation de violence qui grimpe comme ça. Et tout d'un coup, on sait que il faut faire très très attention sur le mot qui doit être choisi parce que le mot peut mettre le feu comme il peut calmer.
Et ça, c'est votre exercice de la philosophie et de la psychanalyse qui vous invite sans cesse à réinterroger votre langage?
Oui, et je pense qu'en dernier instant, je suis plus une philosophe clinicienne qu'une psychanalyste.
Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que la philosophie, ici, ne serait pas là pour créer des mots, justement, pour nous aider à en retrouver?
Ah, mais c'est évident. Je veux dire, la philosophie, c'est ce qui nous permet à un moment donné de comprendre, encore une fois, que le langage, c'est notre vivier premier. Et qu'il faut être absolument créatif. C'est-à-dire que si à un moment donné un mot n'existe pas, ou si vous ne trouvez pas votre mot, mais vous savez quoi? Vous l'inventez.
Le mot désenfanté, pour prendre un exemple.
Le mot désenfanté, c'est un mot qui m'a été suggéré par une patiente, oui, et que j'ai trouvé tout d'un coup tellement juste.
Je vous pose cette question puisqu'il se trouve que vous nous avez écrit un texte ce matin, un texte très particulier qui est une adresse à des femmes que vous accompagnez. On vous écoute.
Donc effectivement, vous m'avez demandé d'écrire un texte inédit pour ce matin et je voulais écrire une adresse à certains d'entre nous, certaines plus précisément. Les femmes donc, et plus précisément encore les mères, et plus précisément encore celles que j'accompagne depuis un certain nombre d'années maintenant, les mères désenfantées, comme une patiente le dit d'elle-même. Qu'est-ce qu'une mère désenfantée? C'est une mère endeuillée qui a perdu un enfant. Ce sont aussi celles qui n'arrivent pas ou ne sont pas arrivées à avoir un enfant et qui portent cela comme une tristesse et une errance infinie. Il ne s'agit nullement de dire qu'avoir un enfant est nécessaire au sujet, et encore plus à la femme. Il ne s'agit nullement de ça. Il s'agit simplement de rappeler qu'un être humain, quel qu'il soit, lorsqu'il éprouve ce désir de l'autre, ce désir du même se continuant dans l'autre, cette part d'éternité, cette part de soi, la meilleure, car c'est celle qui est plus vaste que nous. Quand un être humain est privé de cela, il peut en perdre son propre sujet et le goût même de sa vie. C'est un dur chemin, très intérieur, très invisible, presque incompréhensible pour les autres, même si chacun peut le craindre. La mort de l'autre, c'est quelque chose de très personnel, de très infime, quelque chose qui n'a aucune place dans le monde. C'est une déflagration imperceptible. La mort de l'enfant, c'est quelque chose qui n'arrive qu'à soi, qu'à soi au carré. Le monde ne peut pas voir cela, ça n'a peut-être même jamais existé. Et cela vous absorbe. À ces femmes, je veux leur dire mon estime, à celles qui affrontent le deuil de l'enfant aimé, qui n'ont pas d'autre enfant que celui qui est mort, à celles qui ont d'autres enfants et qui veulent trouver la juste place pour celui qui est parti, à celles qui ont perdu des enfants en couche alors qu'elles espéraient tant de ces tentatives, à celles qui ont vu leur enfant se suicider, à toutes ces femmes qui s'accusent chaque jour de n'avoir pas su protéger, je reprends leur terme, ce qu'elles chérissaient le plus au monde. À ces femmes, je leur dis, nous avons besoin de vous. Besoin de vous pour nous enseigner comment il faut prendre conscience du don du présent, le présent du présent, comment s'accuser n'est pas la plus sûre manière de comprendre nos responsabilités, comment s'engager pour la suite peut devenir un immense chemin, comment ne pas vaciller dans la douleur définitive, le retrait impossible. Je ne parle pas ici des pères désenfantés, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que c'est ainsi, la clinique qui est la mienne, sur cette question-là, est essentiellement peuplée de femmes. Ces femmes, ces mères désenfantées, je veux simplement les saluer aujourd'hui, celles que je connais bien et celles que je connais moins, les saluer avec douceur, leur dire qu'elles sont aussi nos mères, nos filles, nos femmes, et que la filiation maintient sa force et son mystère au-delà de la mort.
C'est ça, l'humanisme dont vous nous parliez tout à l'heure, en fin de compte.
J'espère en tout cas, c'est ce que, si vous voulez, quand on accompagne des gens au plus profond, en psychanalyse notamment, mais ça peut être ailleurs, ça peut être l'amitié. L'amitié est un accompagnement bien évidemment essentiel, l'amour, le mentorat, enfin il y a mille façons d'accompagner les êtres. Et effectivement, voilà, on essaye de leur apporter quelque chose et on se nourrit. Et il faut leur dire que dans leur sentiment déficitaire, en fait, elles nous apportent énormément, énormément, et que nous avons besoin, effectivement, d'elles.
Merci infiniment, Cynthia Fleury, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Dialoguer avec l'Orient, votre dernière publication est disponible en poche, publiée aux éditions du CNRS. J'invite également tous les auditeurs à se plonger dans Le souci de la nature chez le même éditeur. Et puis le 16 mai, chez Tract Gallimard, il y aura Le soin est un humanisme. Merci à vous et merci à tous les colibris de Boumang, Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léon Arbillot, Pierre Martinerie, Paul Guillotte, Jean-Baptiste Dibert. Et puisqu'on est vendredi, c'est important, toute l'humanité, tout de suite, les rendez-vous de la médiatrice. Juste après ça.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Peur que ma chance me quitte, je cours partout.